Bonjour à tous. Tsahal annonce la mort de deux soldats au sud Liban dans l'explosion d'un bâtiment piégé. En visite dans la bande de Gaza, le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a affirmé que l'armée poursuivrait sans relâche les auteurs des massacres du 7 octobre.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que l'Iran et Oman s'étaient mis d'accord sur un itinéraire pour les navires transitant par le détroit d'Ormuz. Et enfin, alors que la Belgique stagnait depuis le 28 juillet dans la deuxième vague de chaleur de son été, le mercure va repasser aujourd'hui sous les 25 degrés. Tsahal annonce la mort de deux soldats au sud Liban.
Le commandant de réserve Harel Birenstock, 34 ans, originaire de Nogdim, et l'adjudant Amir Vaknin, 33 ans, originaire d'Elat, sont tombés hier face au Hezbollah. L'événement s'est déroulé à l'intérieur de la zone jaune. L'armée ne sait pas à ce stade déterminer avec certitude à quel moment la charge explosive a été posée dans le bâtiment récemment ou s'il était déjà sur place. Quatre autres réservistes de Tsahal ont d'ailleurs été blessés lors de cette explosion et transportés vers des hôpitaux. En réponse directe à cette attaque, l'armée israélienne a mené des frappes contre des cibles terroristes dans le secteur. À la suite de cet incident, Benjamin Netanyahu a tenu une évaluation téléphonique hier avec son ministre de la Défense, le chef d'état-major de Tsahal et plusieurs hauts responsables sécuritaires sur la poursuite de la riposte israélienne face au Hezbollah. 968 soldats de Tsahal sont tombés au combat sur les différents fronts depuis le 7 octobre 2023. Que leur mémoire à tous soit bénie. À Rome, les négociations entre le Liban et Israël restent bloquées. Le Hezbollah semble vouloir faire échouer l'accord cadre en intensifiant sa campagne contre le gouvernement libanais et en menaçant toute tentative de désarmement.
En visite dans la bande de Gaza, le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a affirmé que l'armée poursuivrait sans relâche les auteurs du massacre du 7 octobre.
Dans la bande de Gaza, nous frappons le Hamas de manière systématique. Nous ne permettrons pas qu'une menace semblable à celle du 7 octobre se reconstitue à nos frontières, a déclaré Eyal Zamir. Le chef d'état-major a également évoqué les victimes du 7 octobre. Nous les avons en tête tous les jours. Nous continuerons à traquer les responsables et ne cesserons pas avant d'avoir demandé des comptes à tous ceux qui ont participé au massacre tôt ou tard. C'est une mission permanente.
Et la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza devrait s'étendre sur 210 jours et être mise en œuvre en 5 étapes successives. C'est ce que rapporte le quotidien Ashark al-Awsat.
Selon les sources au sein du Hamas citées par ce quotidien saoudien publié à Londres, le passage d'une étape à la suivante dépendrait de l'exécution complète des engagements prévus lors de la phase précédente. Le Hamas conditionnerait donc en outre le lancement de cette deuxième phase au respect par Israël des obligations de la première, parmi lesquelles figurent la stabilisation du cessez-le-feu, l'arrêt des éliminations ciblées et le retrait des forces israéliennes jusqu'à la ligne jaune, mais aussi 600 camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza par jour, la remise en état d'infrastructures telles que les écoles, les hôpitaux et les boulangeries, et l'acheminement d'engins lourds destinés au déblaiement des gravats.
Et dans le même temps, la Force internationale de la paix augmente actuellement sa présence à la frontière de la bande de Gaza en vue d'un déploiement prochain.
Les préparatifs se poursuivent sans attendre les décisions du cabinet de sécurité israélien ni les développements politiques en cours. Des consignes ont été remises de ne pas parler à la presse pour les soldats américains. Ce déploiement intervient alors que des discussions se poursuivent autour d'un cessez-le-feu et de nouveaux arrangements sécuritaires dans la bande de Gaza pour désarmer le Hamas. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré hier que l'Iran et Oman s'étaient mis d'accord sur un itinéraire pour les navires transitant par le détroit d'Ormuz.
Oui, effectivement, alors qu'il mettait la dernière main aux propositions relatives à la gestion conjointe de cette voie navigable, selon certaines informations, cet accord qui renouvellerait le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran permettrait à l'Iran de conserver le contrôle du trafic dans le détroit. Toutefois, des sources officielles s'adressant aux médias iraniens ont souligné que toute réouverture du détroit dépendrait du respect par les États-Unis de ce que Téhéran considère comme un engagement américain à mettre fin à son propre blocus naval des ports iraniens. La dernière vague d'affrontements entre les États-Unis et l'Iran, qui a débuté il y a environ un mois, s'est concentrée sur l'accès au détroit que l'Iran a bloqué et qui constituait avant la guerre une voie d'approvisionnement essentielle pour le pétrole et le gaz à l'échelle mondiale.
Et dans ce contexte, Donald Trump a affirmé privilégier la conclusion d'un accord avec l'Iran plutôt qu'une nouvelle confrontation militaire.
Je préfère un accord avec l'Iran car je ne veux pas tuer des gens, c'est ce qu'a déclaré le président américain, assurant que les États-Unis étaient prêts à frapper la République islamique avec une puissance jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale, je cite. Selon lui, les dirigeants iraniens l'ont ensuite appelé pour demander de renoncer à cette attaque. Après l'échec du précédent accord, on parle désormais d'un nouvel accord provisoire de 60 jours sur le détroit avec navigation sans taxe, voies séparées dans les eaux iraniennes et omanaises et déminage sous 30 jours. Donald Trump affirme que les discussions progressent bien et que le blocus donne aux États-Unis le contrôle. Donald Trump, toujours, qui dément les informations faisant état d'une pénurie de munitions américaines.
Il a écrit sur son compte Truth Social que les États-Unis disposaient d'énormes quantités de munitions. Il a déclaré à les entreprises de défense construisent actuellement le plus grand nombre d'usines de l'histoire de ce pays. Les auteurs de ces fuites sont sous surveillance. Ils seront punis. De lourdes peines de prison seront nécessaires. Le président iranien Massoud Pezeshkian aurait été conduit dans le plus grand secret à une rencontre avec le guide suprême Mojtaba Khamenei, sans toutefois avoir pu le voir ni même s'assurer qu'il s'agissait bien de lui, c'est ce que rapporte Iran International.
Selon des sources citées par le média, Massoud Pezeshkian aurait été emmené dans un lieu secret tenu secret à Téhéran, séparé de son convoi de sécurité, puis installé à l'arrière d'un véhicule aux vitres occultées. L'habitacle aurait été maintenu dans l'obscurité pendant toute la durée de l'entretien et les gardes lui auraient même interdit de serrer la main de son interlocuteur. Toujours selon Iran International, l'entourage du guide suprême n'aurait accepté cet échange qu'après plusieurs demandes insistantes du président qui aurait menacé de démissionner. Massoud Pezeshkian aurait ensuite confié à ses collaborateurs qu'il ne pouvait pas confirmer que l'homme assis à ses côtés était réellement Mojtaba Khamenei puisqu'il n'avait entendu qu'une voix dans l'obscurité. Le chantier naval allemand ThyssenKrupp Marine Systems a livré à Israël l'INS Dragon, le sous-marin le plus cher jamais acquis par le pays.
Attendu initialement en 2025, il a été livré avec un an de retard. Son tout est estimé à 550 millions d'euros. Long de plus de 70 mètres et pesant 2 tonnes, c'est le sixième sous-marin construit en Allemagne pour la marine israélienne. Il peut transporter davantage de personnel que les modèles précédents d'équipement et d'armement. Son système de propulsion lui permet aussi de rester immergé plus longtemps. Israël doit recevoir 3 autres sous-marins à partir de 2031, dont 20% est financé directement par Berlin. Les capacités précises de la flotte israélienne restent secrètes, mais les sous-marins sont considérés comme un élément majeur de la dissuasion stratégique israélienne en mer.
Un mot de politique à présent. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a lancé une nouvelle campagne politique articulée autour d'un slogan « Enfin, un ministre de la Défense de droite ».
Oui, Israël Katz qui veut passer pour un homme de poigne en choisissant de placer son bilan militaire au premier plan. Il cherche à s'imposer comme l'un des visages de la droite sécuritaire à l'heure où la campagne électorale s'accélère en Israël.
Et de son côté, l'ex-député francophone du Likoud, Dan Ilouz, rejoint officiellement le parti Israël Beitenu d'Avigdor Lieberman, où une place éligible lui a été promise en vue des élections législatives.
Né à Montréal, avocat de formation, Dan Ilouz a immigré en Israël en 2009. Au cours de son mandat au Likoud, il s'est illustré par son opposition à l'exemption du service militaire pour les orthodoxes. Il a accusé le Likoud d'être devenu le sous-traitant des partis orthodoxes et estimé que Benjamin Netanyahu avait échoué à diriger le pays et devait assumer ses responsabilités et partir. Il rejoint donc Avigdor Lieberman.
L'une des figures les plus marquantes de la politique orthodoxe israélienne pourrait aussi faire son retour sur le devant de la scène.
Eli Ishai, ancien chef du parti Ch'ass, étudierait actuellement un rapprochement politique avec le parti Hatzibur HaRedi, une démarche susceptible de bouleverser l'échiquier politique et de créer une nouvelle alternative pour l'électorat orthodoxe.
Et enfin, Gilad Erdan, ancien ambassadeur israélien à l'ONU, préparerait un nouveau parti de droite.
Il est favorable à un gouvernement d'union avec Benjamin Netanyahu et Gadi Eisenkot sans les partis orthodoxes ni Yair Golan et en faisant du recrutement massif des Haredim dans l'armée sa priorité. Eli Ishai a présidé le parti Ch'ass pendant 14 ans avant d'être écarté au profit d'Aryeh Deri. J.D. Vance, le vice-président américain, a démenti que le premier ministre Benjamin Netanyahou l'ait interpellé la semaine dernière à Washington au sujet de ses récentes critiques sur Israël.
Il ne m'a pas interpellé, nous avons eu une conversation agréable et franche, a déclaré J.D. Vance à Fox News lors d'une interview en réponse à une question sur un article d'Axios qui utilisait le terme « interpellé » dans le titre mais pas dans le corps du texte. Le vice-président américain avait reproché à Jérusalem de financer une campagne d'influence en ligne pour critiquer les efforts menés par les États-Unis sous l'égide de J.D. Vance pour négocier la fin de la guerre en Iran. Un haut responsable de la Maison-Blanche a par la suite qualifié la rencontre entre Benjamin Netanyahou et J.D. Vance de conversation cordiale et productive sur les questions du Moyen-Orient qui revêtent une importance pour les deux pays. Les deux hommes ont convenu de continuer à chercher des opportunités de coopération entre Israël et les États-Unis dans des domaines d'intérêt mutuel et d'objectifs communs, peut-on lire dans les déclarations de ce haut responsable de la Maison Blanche. On reviendra sur les propos de J.D. Vance avec l'ambassadeur des États-Unis en Belgique, Bill White, qui sera notre invité demain matin de 8h30 à 9h. Et on vous rappelle que la question du jour est la suivante. Les États-Unis sont-ils toujours une terre d'accueil pour les Juifs malgré l'antisémitisme ?
Au Canada, un rapport publié par le Bureau canadien de l'envoyé spécial chargé de la préservation de la mémoire de la Shoah et de la lutte contre l'antisémitisme alerte sur l'ampleur du phénomène antisémite dans les universités canadiennes.
Selon cette étude consacrée à l'expérience des étudiants sur les campus, 96% des étudiants juifs interrogés affirment avoir subi ou été témoins d'au moins un incident antisémite. Le rapport s'accompagne d'une série de recommandations et met notamment en cause des comportements attribués non seulement à d'autres étudiants, mais aussi à des professeurs et à des membres de l'administration universitaire. Dans une déclaration commune, le Centre pour Israël et les Affaires juives, le Bnei Brit Canada et le Centre Simon Wiesenthal ont estimé que l'antisémitisme s'était désormais enraciné dans plusieurs institutions publiques canadiennes, y compris les universités. Les trois organisations ont replacé ces résultats de cette étude dans un contexte plus large, marqué par des attaques contre des synagogues, des écoles juives et des commerces appartenant à des juifs, ainsi que par la forte proportion de crimes haineux envers la communauté juive au Canada. La fresque géante représentant Boy George, peinte à Londres par un artiste israélien en hommage à cette icône de la pop pour sa chanson pro-israélienne We Will Dance Again, a été vandalisée.
Un triangle rouge du Hamas, symbole utilisé par ce mouvement pour désigner ses cibles, y a été ajouté. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un simple acte de vandalisme. Il faut avoir en tête que le triangle rouge comporte une menace de mort implicite. En France, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, demande l'interdiction de la marque de vêtements TAS-17 qu'il accuse de faire l'apologie des attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023.
L'organisation a adressé un courrier au ministère français de l'Intérieur et à la Justice pour signaler les activités de cette marque lancée en 2024 et commercialisée en France. Les soupçons du CRIF portent notamment sur le nom Saten, prononcé donc Saten et signifiant bon appétit en arabe. L'organisation estime toutefois que sa décomposition en SA7TEN pourrait renvoyer au samedi 7 octobre. Ce nom, si on regarde bien, signifie samedi 7 et 10 pour octobre. C'est fondamentalement une forme d'apologie du terrorisme des attentats du 7 octobre. C'est ce qu'a déclaré le président du CRIF, Yonatan Arfi. L'ancien député Meyer Habib sera jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour injure publique aggravée contre la population palestinienne.
L'affaire remonte au 20 octobre 2023, quelques jours après l'attaque du Hamas contre Israël. Lors d'un entretien sur Radio J, Meir Habib avait notamment comparé la population de Gaza à un cancer. La Ligue des droits de l'homme avait donc porté plainte, considérant ses propos comme déshumanisants et discriminatoires. Après l'ouverture d'une enquête préliminaire en 2024, la justice devra désormais déterminer si ces déclarations relèvent de la liberté d'expression ou constituent une injure et une incitation à la haine punie par la loi. Meir Habib reste présumé innocent jusqu'à son jugement. Et on finit sur une note positive. Les Belges pourront observer la semaine prochaine la plus importante éclipse solaire de ces 27 dernières années.
Le 12 août 2026, le Soleil a rendez-vous avec la Lune le temps d'une éclipse solaire totale. Selon l'Observatoire Royal de Belgique, la Lune masquera environ 89% de la surface du Soleil à Bruxelles. 27 ans que la Belgique n'avait plus pu observer un tel spectacle. La dernière éclipse totale remontant au 11 août 1999. Notez bien la date, puisque ce phénomène extrêmement rare ne se reproduira pas avant le 25 mai 2142, soit dans 116 ans.